l'écho d'économie.
La population de Walikale contre la reprise du transport des minerais par avion entre Walikale et Goma. Pour le ministre national des mines, cette décision a pour but d'évacuer le nombreux stocks des minerais encore en souffrance. La dernière troïka stratégique de l'année 2015 a passé en revue la gestion des entreprises publiques en général et celle du fonds de promotion de l'industrie en particulier. Il en ressort le problème de gouvernance et d'éthique ferait encore défaut dans le chef de la plupart des mandataires. L'accident de l'avion cargo à l'aéroport de Bipemba, nous en parlons encore. Ce soir, l'avocat de la compagnie aérienne Serpère revient sur le procédure d'indemnisation des victimes. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir et merci d'avoir choisi Radio Capi pour vous informer. Nous ouvrons ce magazine par le Nord Kivu, par l'intermédiaire de l'ONG Bureau d'études et du développement de Walikale BDOA. La population du territoire de Walikale n'approuve pas la décision du ministre national en charge des mines du 21 décembre dernier visant la reprise du transport des minerais par avion entre Walikale et Goma. Par sa lettre adressée au gouverneur du Nord Kivu en cette date justement, Martin Kabweloulou justifie la levée momentanée de cette mesure d'interdiction pour, écrit-il, évacuer les nombreux stocks des minerais encore en souffrance à Njingala et Mubi. Prince Kiyangi Kiamwami, président du BDOA, l'a dit au micro de Jungala.
Nous demandons que le ministre national des mines puisse revenir sur cette décision-là. N'est pas autorisé qu'il y ait transport aérien de minerais du territoire de Walikale, mais obligé que les exportateurs de minerais puissent utiliser la route quitter Mubi jusqu'à Goma, parce que là, au moins, ils ont un intérêt pour construire la route. Ouais. Mais imaginez si on aura déjà évacué ces minerais. Avec quel argument vous allez convaincre les opérateurs miniers à donner leur contribution pour la construction de cette route? Mais comme ils ont un intérêt particulier, un intérêt du fait qu'il y a des stocks de minerais résiduels qui se trouvent être en Jingala à Mubi, ils ont tout intérêt à donner leur contribution dans la construction, dans la réhabilitation de cette route.
Sachez que l'interdiction de transporter les minerais par voie aérienne entre Walikale et Goma est entrée en vigueur depuis une année maintenant. Restons toujours dans les secteurs routiers. À Kolwezi, les habitants qui fréquentent le tronçon Kolwezi-Kanzenze s'est plaint de la tracasserie policière qui prend de plus en plus d'ampleur sous cet axe. Selon certains témoignages, les policiers commis sous cet axe ont érigé des barrières. Ils exigent aux conducteurs des véhicules un montant qui varie entre 10 000 à 50 000 francs congolais. Les motocyclistes n'en sont pas épargnés. On écoute le témoignage d'un habitant de Kolwezi qui est passé par cette route. Il est au micro de Madeleine Waila.
Il y a des policiers à Kassou, à Lulu. Après Lulu, vers Walemba, à la bifurcation route Nseke Kanzenze. Il y a des policiers à Kanzenze. Et à chaque barrière, chaque taximène doit déposer au moins 10 000 francs. Il y en a qui exagèrent même en demandant 50 000 francs, 70 000 francs, et on ne se limite pas là. Même les charbonniers, ils sont en train de rançonner ceux qui viennent avec 5 sacs sur leur vélo. Il faut laisser à chaque barrière 2, 3, 1000, 5000 francs. Et ils appellent ça, il faut donner le rapport à nos chefs. Bon, on ne comprend plus rien de ce qui se passe à Kolwezi.
Contacter le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Lualaba indique qu'il vient d'apprendre la nouvelle. Il promet d'instruire le commandant de la police des circulations routières de la ville de Kolwezi pour que ces barrières soient enlevées sur ces tronçons. Parlons à présent de la 51e et dernière réunion de la Troïka stratégique de l'exercice 2015. À l'international, la rétrospective de l'année 2015 faite par la Banque mondiale a souligné que le taux de l'extrême pauvreté a chuté en 15 ans. Sur le plan national, le problème de gouvernance et d'éthique ferait encore défaut dans le chef de la plupart des mandataires. Les condensés avec vous, Daniel Tombinzoni.
La rétrospective 2015 faite par la Banque mondiale a révélé, entre autres, que l'extrême pauvreté en 2015 a chuté de 15 ans, passant de 37,1% en 1990 à 9,6% en 2015. Ce résultat est consécutif aux politiques menées par les pays du monde en synergie avec les bailleurs de fonds. Dans le chapitre du développement durable, 17 objectifs ont été retenus en vue de poursuivre la lutte contre la pauvreté et faire face aux changements climatiques. Le cours du cuivre, a noté la Troïka, en cette fin 2015 a enregistré une légère hausse de 1,90%. La tonne métrique se vend à 4 572 $ contre 4 585 $ une semaine auparavant. L'once d'or a baissé de 0,65%. L'once d'or a baissé de 0,65%, passant de 1 075 $ à 1 068 $. Le prix de la tonne métrique du cobalt s'est maintenu à 21 964 $ américains après la forte baisse de 9,55% enregistrée au début du mois de décembre. 2015 se termine avec 7,7% de taux de croissance selon la Commission des études statistiques et des comptes nationaux, tandis que les indicateurs macroéconomiques attestent selon la Troïka la stabilité et la résilience de l'économie congolaise dans un contexte international marqué par la baisse des cours des matières premières. Les réserves internationales à la Banque centrale sont à 1 480 000 000 $ américains, couvrant 6,11 semaines d'importation des biens et services. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo demeure à 2%. Le plan de trésorerie du secteur public renseigne que le solde général cumulé en date du 23 décembre est déficitaire de 166 080 000 000 $ contre un déficit projeté de 269 576 000 000 $. Dans les dossiers spécifiques, la Troïka a fait état des entreprises publiques face à la nécessité de conjuguer les efforts en vue d'une part assurer la diversification de l'économie nationale et donc garantir la soutenabilité et d'autre part la Troïka stratégique a passé en revue la gestion des entreprises publiques en général et de celle du fonds de promotion de l'industrie en particulier. Il a été globalement relevé le problème de gouvernance et d'éthique qui ferait encore défaut dans le chef de la plupart des mandataires. Il a été convenu que la question soit approfondie au niveau technique en vue de lever des options stratégiques visant à améliorer la gouvernance des dites entreprises et services publics.
Cap vers la province de la Tchopo où une délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses a quitté hier lundi la ville de Kisangani après une quinzaine de jours de travail. Cette délégation est arrivée dans la province de la Tchopo en prévision de la revue du processus de Kimberley prévu en février prochain. Il était question notamment d'établir un état des lieux du système de certification du processus allant de l'extraction au niveau du puits à la commercialisation du diamant brut. Mathieu Yamba, directeur technique des CEC, parle du travail abattu pendant ces 10 jours. Il est au micro des Dorcas Kanko.
Nous avons mené des activités sur la sensibilisation des différents intervenants et des différents acteurs qui sont les comptoirs, les négociants, les exploitants artisanaux. Nous avons eu une sensibilisation également avec la coalition de la société civile de la province de la Tchopo, ainsi que une partie de l'industrie du diamant. Cette information devait porter sur les exigences minimales du processus de Kimberley. Lorsque nous aurons à avoir une visite de revue, ces exigences portent sur le cadre institutionnel, c'est-à-dire les institutions qui doivent se retrouver au niveau de l'exploitation jusqu'à la commercialisation. Deuxièmement, sur le cadre légal, c'est l'arsenal juridique. Troisièmement, sur les contrôles internes que nous devons faire. Quatrièmement, la tenue des statistiques, le mode de collecte. Cinquièmement, c'est le régime de fiscalité que nous avons ici.
Rappelons que la dernière revue du processus de Kimberley en RDC date de 2009.
Écho d'économie.
Le directeur général de la compagnie aérienne CFR est arrivé lundi à Mbujimayi. Son déplacement entre dans le cadre de l'accident de l'avion cargo le jeudi dernier à l'aéroport de Bipemba. Accident qui a occasionné les décès de 8 personnes, 14 autres blessés et la destruction de 3 résidences privées. Monsieur Arish s'est fait accompagner de l'avocat de l'assureur de l'avion accidenté, Maître Amédé Mboma Nkingu, et l'invité des Radio Kapi. Dans un entretien avec Chris Moukan, il parle de la procédure d'indemnisation des familles des victimes de l'accident.
Je vous rassure qu'elles seront indemnisées, mais nous avons besoin de certains éléments, notamment le certificat de décès, le permis d'inhumation, les actes de naissance de victimes, parce qu'il faut établir des liens de parenté entre les responsables de famille des victimes et la victime. Si on payait à une personne qui n'a pas qualité, ma cliente sera obligée de payer deux fois. Vous connaissez le principe selon lequel celui qui paye mal paye deux fois. Donc, nous devons étudier minutieusement les dossiers avant de pouvoir indemniser. C'est pourquoi on demande un peu de documents, un peu de temps aussi. Nous avons aussi besoin du rapport de l'aviation civile, c'est-à-dire la commission qui est mise en place plutôt par le gouvernorat provincial. Ce rapport pourra aussi nous aider à pouvoir analyser minutieusement les dossiers.
Une fois en possession de tous les documents, toutes les pièces dont vous avez besoin, il faudra compter combien de temps pour que l'on parle d'indemnisation?
Le temps, je ne sais pas, mais si les documents produits sont clairs, l'indemnisation ne traînera pas. Peut-être ça pourra prendre deux mois, trois mois. Tout dépend de la façon dont les familles victimes vont préparer les documents dont nous avons besoin.
Les victimes au sol, les victimes à bord de l'avion, est-ce que la procédure, l'indemnisation, c'est de la même manière?
Vous devez savoir que le transport aérien est régi par des conventions internationales. Depuis le 24 décembre 2013, la République démocratique du Congo a ratifié la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Donc il y a cette convention qui est entrée dans l'arsenal juridique national, donc qui est devenue comme une loi nationale. Il y a aussi d'autres lois et d'autres conventions qui pourront être d'application. Donc il y a quand même une différence entre victime au sol et victime à bord. Mais la responsabilité du transporteur généralement est limitée. C'est pour éviter que les transporteurs aériens disparaissent. C'est parce que si on doit payer sans limitation de responsabilité, les compagnies aériennes n'existeront plus. Vous le savez, il y a certains vols que les transporteurs aériens font à perte. C'est-à-dire tous les sièges ne sont pas occupés, ou je prends les cas de cargo, où ils n'ont pas toute la cargaison, mais l'avion vole.
Dans le cas d'espèce, pour l'accident de Mbujimayi, qui sera votre interlocuteur?
Mais nous allons parler directement avec le famille victime. Nous traitons directement avec le famille victime. Nous n'allons pas passer par une personne interposée pour parler avec les victimes. Nous préférons traiter avec les victimes. Je viens de vous dire tantôt que si nous payons mal, nous serons obligés de payer deux fois. Si nous sommes passés par l'autorité provinciale, c'est juste pour s'occuper des obsèques des victimes. Mais pour l'indemnisation, nous allons traiter directement avec les victimes.
Merci.
Merci à vous.
Merci de l'attention que vous avez accordée à ce magazine. Bonne suite de programme sur Radio Capi.